Voilà, donc, merci beaucoup. On a déjà vécu le message que je vais vous amener. D'accord ? Donc, c'est bien ? Non, mais c'est cool, c'est cool. On a juste un petit contact avec Stéphane et c'est vraiment génial de voir comment Dieu prépare, de voir l'étendue, en fait, de sa grâce aussi là-dedans. Donc voilà, ce message aujourd'hui, avant que j'entre dedans, je vais prendre l'occasion, en fait, vu que c'est un culte missionnel, normalement aujourd'hui, qui ne sera pas si missionnel que ça, mais j'aimerais prendre l'occasion juste pour vous remercier tous pour le soutien généreux et varié que vous avez pour nous dans notre ministère, d'accompagnement aussi auprès de ceux qui servent Christ, dans des contextes et de manières tellement variées. Ce n'est pas juste qu'ils annoncent l'Évangile, alors oui, ils le font, mais ils le font selon ce qui est écrit dans la parole aussi, envers les pauvres, que ce soit des pauvres physiques, des pauvres spirituels, relationnels. Vous pourrez rajouter encore deux, trois trucs, je pense, dedans, mais voilà. Ils le font auprès des opprimés, pour certains. On pense là à la traite humaine, à tous ceux qui sont en guerre, à ceux qui vivent sous des régimes autoritaires, que ce soit dans des familles, des travails ou des gouvernements, ou dans des systèmes autoritaires et pernicieux. On pense à ceux qui sont persécutés aussi. Tous ceux qui sont dans la servitude, l'esclavage du péché. C'est aussi une grande partie de ce que j'accompagne, en fait. C'est des gens qui essayent de répondre à leur vie, mais d'une manière qui n'est pas très, très saine. Donc là-dedans, vous mettez tout ce qui est addiction et tout ça. Et puis, il y a tous les malheureux sans asile, réfugiés, déplacés internes. Je ne sais pas si vous savez, on a les chiffres souvent des réfugiés, mais les déplacés internes, c'est des nombres encore plus affolants que les réfugiés. Donc, c'est des gens qui sont juste déplacés au sein de leur pays. Et c'est juste des trucs absolument fous. De gens qui bougent, qui reviennent, qui repartent, qui vivent vraiment de manière très, 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 très simple, pour ne pas dire pire. Et puis, avec ces gens que j'accompagne et que vous accompagnez avec nous, hein, parce que vous faites partie de ça dans le soutien que vous nous apportez, c'est un jeûne qu'on pratique. Alors, c'est bizarre de dire ça, hein, mais en fait, c'est juste Ésaïe qui nous raconte ça, dans Ésaïe 58, les versets 6 et suivants qui disent « Le jeûne tel que je l'aime, le voici, et vous le savez bien. » Alors, des fois, je me dis « Est-ce qu'on le sait vraiment bien ?» Ça, je ne sais pas, mais bon, il avait l'air assez convaincu. « C'est de libérer les hommes injustement enchaînés. C'est de les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclavage. » Et puis il continue en disant « C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres ou déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, de ne pas te détourner de celui qui est ton frère. » Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Et c'est assez intéressant, hein, ce passage, parce qu'on se dit, ben, souvent, on va chez le docteur, puis il faut qu'il fasse quelque chose pour nous cicatriser, pour nous guérir. Et puis là, ils disent, non, tu pratiques ce jeûne-là, et puis il y aura la guérison. Et puis, il ne s'arrête pas là, il dit, ton salut te précédera, et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Waouh! Puis ça continue, mais c'est juste assez incroyable. Et je voulais vous, voilà, je simplement vous remercier de cheminer avec nous, en fait, dans tout ça, et puis de servir avec. C'est aussi un petit peu les murs de l'Église qui sont étalés, hein, qui sont étendus ailleurs. Et puis voilà. Donc merci pour tout votre soutien. Et puis ce passage nous amène directement au sujet de ce jour, comme la louange d'ailleurs, c'est en fait, alors on va essayer de voir si ça marche, hein. Oui, ça marche, fabuleux. C'est depuis un petit moment que je prépare pour aujourd'hui, j'ai ce thème qui revient du pardon, puissance de libération, et du non-pardon qui est un voleur de joie. Et c'est pour ça que je dis que c'était connecté avec la semaine passée, où on est un peu dans l'opposé. C'est qu'il y a quelque chose qui nous donne beaucoup de joie, qui est cette joie infaillible qui est là, de la présence de Dieu en nous, nous en lui et tout ça. Et puis en même temps, quand on est dans le non-pardon, eh bien ça fait quelque chose à cette joie. Ça vient la voler, ça vient la détruire. Et c'est vrai que la semaine passée, on était inspirés, nourris sur ce thème de la joie. Non pas une joie éphémère, mais cette joie infaillible qui jaillit de notre relation avec Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage, quand ça sera sur le site, d'aller écouter ce message. Parce que c'est vrai, c'est déjà ? Ok, alors vous pouvez déjà y aller. Allez-y, écoutez-le. Puis ceux qui étaient déjà là, vous retournez. Parce qu'il y avait tellement de choses dedans que quand je l'ai réécouté, je me suis dit, j'ai loupé la moitié de ce qu'il a dit. Puis Dieu a parlé différemment, et puis voilà, etc. Donc vraiment, je crois qu'il y a quelque chose dans le message qu'on a eu la semaine passée qui est super important, de cette joie. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une des réalités de nos vies qui dit que nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance à sa parole. Ça faisait aussi partie de la joie, ça faisait partie de son message la semaine passée. Vous vous rappelez de ça, qu'il a dit ça ? Obéissez à la parole de Dieu. Et c'est tout ce thème, en fait, du pardon. Mais quand on parle du pardon, il faut aussi se pencher sur le non-pardon. Parce qu'on peut parler du pardon, puis c'est cool, quoi. Ça, alors, c'est cool. On verra que c'est peut-être pas si cool que ça, même que c'est cool la fin. Mais on doit se pencher sur le non-pardon qui vient entraver, qui vient déranger, qui vient voler, qui vient détruire parfois cette joie qui est en nous, cette paix qui est en nous dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, aussi avec les autres. Alors, Liliane, si je peux te demander juste de passer les trucs. Je vais passer trois miroirs, d'accord ? Donc, vous n'avez pas besoin de vous arrêter très longtemps. J'aimerais que chacun ait un regard juste dans le miroir. Et puis, quand on aura fait tout le tour, eh bien, je continuerai le message, en fait. Voilà. Donc, chacun se regarde un petit moment et puis passe le miroir à son voisin. D'abord les ouvrir, hein. C'est quelque part sur un des côtés. C'est des miroirs de dames, donc vous devez être à peu près OK, hein. Voilà, puis vous regardez juste bien ce qu'il y a dedans, d'accord ? Et puis vous passez à votre voisin. C'est bon, tout le monde l'a eu ? Ok. On vit dans un monde imparfait, entouré de personnes imparfaites, y compris celles que vous venez de regarder et de voir dans le miroir. Alors ça, on aime moins entendre, hein ? On aime bien s'imaginer que les autres sont imparfaits, mais nous, on pense quand même qu'on est pas mal. Mais du fait qu'on vit dans ce monde, entouré de personnes imparfaites, y compris nous, on a tous été blessés par des mots, par des actions, par des attitudes ou des non-actions des autres. Et nous-mêmes, eh bien, on a aussi blessé d'autres personnes. Ça, c'est juste la réalité de notre monde. Alors, pour parler du pardon, alors les gars, vous avez déjà entendu Christian Cartier parler de ça, mais vu que ça partait pas de moi, je me suis dit, ben je le reprends et puis ça sera un bon rappel. Donc un message que j'ai déjà donné alors sous une forme un tout petit peu différente, mais j'ai repris quand même les grandes lignes. J'aimerais placer en fait le côté de ce monde imparfait qu'on reproduit ou qu'on reçoit dans quelque chose de beaucoup plus large, parce que pour parler du pardon, il faut parler de pourquoi on doit pardonner. Alors, tout d'abord, il y a cet offenseur qui vient faire quelque chose de mal parce qu'il est imparfait, qui va venir me lancer une flèche contre moi qui s'appelle injustice ou péché. Okay, jusque-là, ça va ? Vous suivez ? Ok. Que l'agresseur soit une personne tierce, que ce soit nous-mêmes envers quelqu'un, il se peut que cette personne ne soit pas consciente des dommages causés. Ça, c'est plus embêtant, hein ? Quand l'autre, il n'est pas conscient d'eux. Mais en fait, il y a tout un impact qui va avoir lieu quand on vit ça. Et cet impact-là, vous ne le choisissez pas, vous ne pouvez pas le contrôler, ça va se passer. Cet impact, il a ces quatre ou cinq domaines de la vie, ça va créer des questions dans nos vies et de la confusion. C'est là qu'il y a tous les pourquoi. C'est là qu'on essaye de justifier, de comprendre, de faire sens avec quelque chose qui ne fait pas sens. Ça va créer des besoins non comblés, un besoin de respect, un besoin d'acceptation, un besoin de limite, un besoin, vous y mettez tout ce que vous voulez là-dedans, hein, il y a beaucoup de besoins qu'on a, d'être aimé, un besoin d'être écouté, un besoin d'être valorisé. Et puis, dans l'injustice, tous ces besoins-là, ou en tout cas certains de ces besoins, dans certaines injustices, vous n'allez plus les recevoir. Quelqu'un qui se fait abuser, il va perdre le besoin de limite. Parce qu'il n'y a pas de limite pour l'abuseur. Quelqu'un qui abuse va voler quelque part le respect de la personne, va voler la valorisation de la personne, et vous y mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Ensuite, quand on a ces besoins qui ne sont pas comblés, on devient vide de quelque chose, il y a une souffrance qui va venir, s'il y aura un brisement en fait, de notre âme, de notre cœur. Ce brisement-là va avoir des noms, rejet, abandon. Puis vous y mettez trois petits points parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Okay. Et de ces trois endroits va se créer en fait en nous des croyances. Alors soit ça va se créer, soit ça va changer des croyances qu'on a déjà, soit ça va renforcer certaines croyances qu'on a. Dans le sens que je peux avoir une croyance qui vient que je ne fais jamais rien de bien, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas parfait. Que, donc, si je ne suis pas parfait, je suis quoi ? Nul, merci. OK, voilà. Ça, c'est des croyances, en fait, qui vont venir d'expériences qu'on a dans la vie, surtout dans nos premières années, je dirais, jusqu'à 8-12 ans, malgré que certaines croyances qu'on a, qui peuvent être bonnes, peuvent changer plus tard. Mais la majorité des croyances qu'on a, ça parle d'identité qui est faussée. Il y a beaucoup de honte, souvent, de culpabilité qui est attachée à ça. Je n'ai pas de valeur, donc ça veut dire que tous les autres, ils en ont, mais pas moi. Et c'est des croyances face à celui qui m'a blessé et à tous ceux qui le ressemblent. C'est des croyances face à Dieu. Et puis, c'est des croyances face à nous-mêmes. Alors, on en reparlera dans un petit moment. Et la dernière chose que ça va impacter, où on n'a pas le choix, ça va se passer dans nos vies, c'est qu'il va y avoir de la peur, de l'anxiété qui va s'installer dans nos vies, une peur que ça va se reproduire et qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Et cette peur-là, en fait, elle aura un grand impact aussi dans nos vies. Alors là, je vous la fais très très court, parce que j'aimerais aller sur le pardon après, mais j'aimerais vous prendre pour comprendre le contexte dans lequel le pardon prend lieu. Ensuite, il y a tout ça qui se passe en nous, zéro contrôle, tu as beau dire « non, ça c'est pas grave, c'est pas... non, calme-toi, c'est bon », non, ça va se passer, tu vas vivre ces choses. Et ce qu'il y a après, c'est qu'on va répondre. Il va y avoir en fait des réponses humaines à l'injustice ou au péché. La première, elle va avoir lieu ici, avec les besoins et la souffrance. On va en fait commencer d'avoir des mécanismes de survie ou d'adaptation. C'est-à-dire que si un des besoins que j'ai, c'est d'être valorisé parce que je n'ai pas reçu ça ou ça m'a été retiré, en général, beaucoup de gens vont se mettre à faire quelque chose pour prouver qu'ils ont de la valeur. Vous voyez comment on est tordu, hein ? Mais en fait, on le fait super bien, c'est ça le problème. On le fait super bien. Parce qu'on a besoin de survivre. Et si ce n'est pas la valeur, ça peut être autre chose. D'accord ? Mais en fait, on va commencer à faire des choses qui deviennent, pour certaines choses, des addictions. Alors là-dedans, vous pouvez mettre la perfection, vous pouvez mettre d'aider tout le monde, vous pouvez mettre... C'est en fait simplement des mécanismes qu'on met dans nos vies pour recevoir quelque chose là où c'est vide. Ensuite, avec la peur, l'anxiété, eh bien, il va y avoir des mécanismes. Oh là, ça m'a tiré. Okay. Il va y avoir des mécanismes de défense, de protection, parce qu'on ne veut pas revivre la même chose. Et ces mécanismes, ils vont avoir à faire avec les croyances aussi un petit peu. C'est que souvent, on ne veut pas être connu par les autres dans certains domaines de nos vies. Si je pense que je suis zéro, que je suis nul, il y a beaucoup de gens qui vont partir à l'opposé pour pas justement être vu comme un nul. Donc, je vais partir dans la perfection. Donc, je vais faire super bien. Donc, je vais être sous la loi parce qu'il faut que je fasse, que je fasse, que je fasse. Et j'ai plus de moment pour être là-dedans. Mécanisme de défense, de protection. Je vous en nomme juste quelques-uns. Il y a, par exemple, la manipulation. Il y a le contrôle. Le contrôle, ça peut être dans l'agressivité, ça peut être dans les paroles dures, ça peut être dans le retrait. Des gens qui se retirent, qui ne parlent plus, et puis voilà, on est dans le retrait. Ça peut être dans être les clowns, faire rigoler tout le monde, super apprécié, pendant un petit moment en tout cas, par le reste de la communauté, parce que ça fait rire tout le monde. Mais un petit moment après, on se dit, mais bon, c'est bon quoi, passons à autre chose. Il peut y avoir aussi ceux qui s'adaptent à tout. Tu veux vert ? Ah ben je vais être vert, toi tu veux bleu, ben je vais être bleu, puis je commence à m'adapter à tout, mais je ne vis plus en fait, je perds ma propre identité là-dedans. Donc ça c'est un petit peu les mécanismes de défense, de protection. Et puis ensuite on arrive là où je veux aller aujourd'hui en fait, c'est ce cri de justice qui est un cri normal. D'accord ? Le cri de justice c'est ça ici. Vous le connaissez ça ? Vous l'avez déjà fait ça ? On habite en France, même si on n'est pas français, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, en fait. En France, pour tout et pour rien, il y aura ce cri de justice quelque part. Et puis, parfois, dans nos vies, c'est aussi là. Et dans ce cri de justice, il y a plusieurs choses. C'est là qu'on va retrouver la frustration. Ça, c'est quand c'est très bas. Le ressentiment, la colère. Et ça peut aller jusqu'à la haine. Et puis vous mettez tous les mots qui vont entre deux que vous connaissez par rapport à ce thème de la colère. C'est quelque chose qui vous dit, en fait, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Et puis, il faut lutter contre. Donc la colère, elle est bonne. La manière dont on l'exprime n'est peut-être pas très bien. Mais la colère est bonne en soi. Et on reviendra sur Dieu après avec sa colère. Il y a aussi dans cet endroit de cri de justice, le jugement. Dans le jugement, c'est beaucoup d'accusations. Alors ça peut être des accusations sur les autres. Ils sont tous comme, paf, tcha, et puis ça y va, c'est les boulets de canon. Il peut y avoir l'accusation contre Dieu. T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Où c'est que tu es ? Pourquoi ? Tu dis que t'es amour, mais pff, regarde ce qui se passe dans ma vie. Tu dis que tu es tout puissant, puis pourquoi ça se passe alors ? Vous avez eu ? Ou bien je suis sur un terrain complètement à côté de l'autre ? Parce que si je suis sur un terrain, il faut que vous veniez ici et que vous nous enseigniez. Donc toutes ces accusations, il peut y avoir les accusations contre soi-même aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes, adultes comme enfants, qui avaient des parents divorcés depuis très petits. Et le doigt, il était là. Le doigt d'accusation était tourné vers eux et ils disaient, c'est à cause de moi, c'est ma faute. Si je n'étais pas là, ben, ils n'auraient pas divorcé. Okay, tu avais quel âge quand ils ont divorcé ? 2 ans. Ok. Wow. Vous voyez les messages, les croyances qui sont derrière ça ? C'est hyper puissant. Hein ? C'est hyper puissant. Puis ça, ça va se reproduire dans plein d'endroits différents de nos vies. Et puis, il y a la demande ou la revendication. En français, j'aime mieux utiliser le mot revendication, mais il n'y avait pas la place là pour que ça ne sorte pas de ma petite flèche rouge là. Donc, j'ai mis demande. Mais les revendications, ça sera ce doigt pointé contre celui qui nous a fait du mal et qui dira, tu dois pardonner, tu dois reconnaître que, tu dois changer, tu dois dire ce que c'était faux, tu dois. Quand on est dans cette tu dois, d'accusations, de revendications, de demandes, votre regard, il est où? Voyez où mon doigt y pointe? Il est sur l'autre. Et vous pouvez chanter tous les matins, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra. Super cool. Tu vas avoir ces paroles sur ta langue et à peine que tu as fini de chanter, fou. Et en fait, quand on rentre dans ce cri de justice, on se met dans nous-mêmes dans une prison. Et c'est pour ça que j'ai dessiné cette chaîne. C'est la flèche, elle vient de l'offenseur vers nous. La chaîne, c'est quelque chose qui vient de notre cœur, qui est blessé, qui est vide, qui n'a pas ce qu'il devrait recevoir, et qui, dans ce cri de justice, en fait, c'est comme s'il y a une chaîne extensible qui vient. Si j'ai été blessé par un leader, je peux partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, pour me dire, ben là-bas, au moins, je ne vais plus le voir, ce mec. Et j'arrive là-bas, puis je rentre de nouveau dans une équipe. Et je vais avoir mes petites lunettes bien rouges, peut-être même violettes, suivant ce que j'ai vécu, qui va regarder, avoir un regard, jusqu'à ce que je vois quelque chose de faux chez cette personne, malgré qu'elle ne fasse rien du tout. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec des équipes où des responsables, ils disent quelque chose et ils ont cette explosion devant eux, et puis tu ne sais pas ce qui se passe, en fait. Tu dis, mais purée, j'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Et parfois, c'est simplement, en débriefing, en relation d'aide et tout ça, c'est parfois le regard que les gens ont sur moi. Parce qu'ils voient peut-être un leader, parce qu'ils voient un gars à cheveux blancs, parce qu'ils voient un papa, parce qu'ils voient, etc., etc. Et puis qu'ils ont été blessés, et puis ils projettent, en fait, gentiment des choses. Donc, ce cri de justice, on va revenir dessus, parce que c'est là que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Il y a un vieux proverbe qui parle de l'impact du non-pardon sur notre santé. Et voilà ce qu'il dit. Le non-pardon n'est pas ce que tu manges. C'est un peu bizarre, hein? Mais ce qui te mange. Vous voyez la différence? Le non-pardon, ce n'est pas quelque chose d'extérieur que tu vas manger, mais c'est quelque chose qui va te manger toi. Et il va y avoir beaucoup de choses au niveau physique, souvent, mais aussi au niveau mental, au niveau psychologique, qui peut se passer à cause du non-pardon dans nos vies. C'est quelque chose qui est très sérieux comme thème. Et puis, pour finir juste ce petit slide, il va y avoir, j'ai déjà passé un petit peu trop loin là, pardonnez-moi, c'est pas celui-là. Je vais essayer de revenir juste en arrière, si on veut bien. Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce qu'il ne veut pas revenir? Peut-être, peut-être. Oh, voilà, on est de nouveau au départ. OK. D'accord. Alors, on va le laisser réagir. Ça, on a déjà fait. Ça, on a fait. Voilà. On est là. Ça influence aussi ce qu'on vit et puis nos réponses humaines, la manière dont on va percevoir les nouvelles expériences. Et puis, ça va aussi influencer nos comportements. Donc voilà, tout ça, on peut faire une semaine dessus et puis on y sera toujours. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Simplement pour dire que quand on, quelque part, met tout ça sous terre, qu'on l'enterre, qu'on ne fait pas grand-chose avec, que ce soit avec nos émotions négatives, avec ce qui se passe dans nos vies et tout ça, parfois parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec non plus, ça peut favoriser un cancer spirituel, émotionnel, relationnel. Quelque chose qui, petit à petit, en fait, va s'installer dans nos vies et va gangréner notre vie et puis nous amener dans des endroits où c'est que la joie dont on a parlé la semaine passée n'existe pas, ou très, très peu. La Bible nous enseigne, nous rappelle la nécessité du pardon. J'ai pris juste deux passages. Tout d'abord, Matthieu 6, 14 et 15, où Jésus enseigne et il dit cela, « Si vous pardonnez aux autres lorsqu'ils ont péché contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Puis vous vous dites, « Oh, comment vous réagissez avec cette parole ?» C'est un peu, Seigneur, tu dis que je suis pardonné en Christ, tout ça, mais tu dis que si je ne pardonne pas, tu ne me pardonnes pas. Il se passe quoi en fait là-dedans? C'est un peu compliqué hein, comme texte. Et puis, il dit après, « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, vous, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Donc, pour moi, ça parle d'un thème qui est plutôt sérieux, qui a des conséquences pour nos vies. Ça ne veut peut-être pas dire le salut, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous invite à, devant ce thème du pardon, à prendre position et puis à faire quelque chose. Dans Éphésiens 4, il nous dit, au chapitre 4, verset 32, il nous dit « Pardonnez-vous réciproquement ». Et là, ce n'est pas parce que si vous pardonnez, vous serez pardonné, et puis si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas. Il dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ ». Ça vous rappelle deux, trois chants qu'on a chantés ce matin, là? Le mot en grec pour « pardon », c'est un mot qui est assez intéressant, qui est « apaisis ». On pourrait dire « apaiser », hein. C'est un petit peu c'est la source de notre mot « apaiser ». Mais c'est un mot qui a une signification de libérer, de pardonner, de rémission, de délivrance. Voilà, ça inclut un petit peu tout ça là-dedans. Et si on pense à la joie, là aussi où Stéphane nous a amené et posé la question ce matin, hein, c'est quand on est en fait dans cette joie, il y a ce sentiment d'être libre. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté, hein? Et puis Paul nous enseigne là-dessus. Faites pas n'importe quoi avec la liberté. Waouh, mais le pardon, c'est être libéré par Dieu afin qu'on puisse aussi libérer les autres. Et on a chanté deux phrases exactement ça. Je suis pardonné pour que je puisse pardonner. Waouh. Le pardon, c'est quelque chose qui peut supprimer ce pouvoir négatif que d'autres personnes ont dans nos vies à cause d'une situation qui s'est passée. Deux, trois petites choses sur le pardon. Le pardon est l'antidote de l'amertume, de la colère, du cri de justice, du ressentiment. Il entraîne une transformation, une nouvelle façon de voir les autres et nous-mêmes. Et puis, le pardon, il y a deux, trois choses qu'il n'est pas. Alors, on reviendra un tout petit peu là-dessus après, mais j'aimerais mentionner ça ici. Le pardon, ce n'est pas excuser ou justifier. Mais c'est libérer. Et le pardon, ce n'est pas dire « Oh, c'était rien ». Vous faites ça des fois ?« Oh, c'était rien, quoi. Je te pardonne. » Mais non, quand on pardonne, en fait, on dit « Ça m'a blessé, ça m'a cassé, ça m'a détruit. Et je décide de ne plus porter le poids. » De transposer ce poids ailleurs. C'est une perspective qui est radicale, le pardon, c'est une perspective qui est contre-culturelle et qui va au-delà d'une réconciliation éphémère. Vous savez, quand je travaille quand même beaucoup avec des couples, et puis je suis en couple aussi, où parfois tu dis quelque chose et puis tu as l'impression que c'est bon, maintenant on est en paix. Mais en fait, il n'y a rien de la paix, quoi. On a juste donné des paroles, mais il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Et quand on parle du pardon, en fait, c'est quelque chose qui est un véritable lâcher-prise et puis d'embrasser la liberté aussi qui vient de la grâce de Dieu. Paul, il y place la barre assez haut, hein, quand il écrit dans Colossiens 3, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez les griefs que vous avez les uns contre les autres. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. » Alors, moi, ça m'amène à me dire, mais Dieu, il a pardonné comment? Ça ne vous pose pas cette question quand il dit ça? C'est Paul, hein, il le dit à plein d'endroits. Il dit dans Éphésiens, il dit ça dans Colossiens, il dit ça, pardonnez-vous comme Dieu nous a pardonné. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Alors moi, ça me pose cette question, c'est comment est-ce que Dieu a pardonné? Alors, c'est le prochain slide, on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus. C'est que souvent, dans notre relation avec Dieu, il y a quelque chose de mal qui se passe et on va en fait projeter notre accusation vers lui en lui disant « t'aurais pu ». Pourquoi t'as pas ? Pourquoi t'as pas arrêté celui qui est venu tuer ma famille ? Pourquoi t'as pas arrêté celui qui est venu m'abuser ? Pourquoi t'as pas arrêté celui... Et c'est de l'accusation en fait. On lève notre doigt vers Dieu ou notre poing et puis on lui dit « mais pourquoi ? T'étais où ?» Et puis, j'aime bien prendre les gens une étape avant l'accusation, avant le cri de justice. C'est de dire quand Dieu, il voit ce qui se passe dans ta vie, de mauvais, qui t'arrive à toi, qu'est-ce que ça fait à Dieu ? Alors là, je vous le fais vite, parce qu'on est, sinon je vous ferai répondre, d'accord ? On a un Dieu qui, tout au travers de la parole, il est dit qu'il voit la misère de son peuple et qu'il entend le cri de détresse. Quand tu as vécu quelque chose de difficile, est-ce que c'est le Dieu que tu connais ? Est-ce que c'est celui vers qui tu t'approches ? Celui qui voit ce qui se passe et celui qui entend ton cri ? Ou est-ce que tu sautes directement à l'accusation dans ton cri de justice ? Et ça, c'est une question qu'on doit tous se poser. Et puis, ce que ça m'a posé comme question, en fait, de se dire, bon, si ça c'est vrai, Dieu voit, il ne l'arrête pas, je ne comprends pas pourquoi il ne l'arrête pas, mais il voit, qu'est-ce que ça lui fait ? Ben, il est dans la souffrance, il est affligé dans son cœur, ça on le voit dans plusieurs endroits dans la Bible, mais entre autres ici, je l'ai repris de Genèse 6, tout au début, quand Dieu voit tout ce qui se passe dans le monde, qui est horrible. Mais ce n'était pas plus horrible qu'aujourd'hui. Hein. Et puis il dit, mais dans le monde, il y a tout le monde, il pense qu'à la méchanceté tout le temps. Ça pourrait être la première page quand vous ouvrez votre ordinateur ou votre téléphone, hein, de vos news. Ils ont développé tellement la méchanceté, et puis ils sont méchants, et puis ils pensent qu'à ça toute la journée. Waouh. Et là-dedans, en fait, Dieu, il dit, je suis affligé dans mon cœur, et je regrette d'avoir fait l'homme. Et dans ce regret, c'est son cri de justice. C'est la colère de Dieu. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il ne dit pas seulement « Oh, je regrette d'avoir fait. » Non, il regrette avec une colère intense, incroyable, qui appelle et qui dit « Je vais tout balayer. Tout le monde va passer. J'arrête tout. » On fait tout le monde qui meurt, puis pas seulement les hommes, mais les animaux, les poissons, les oiseaux, tout. Tout ce qui vit, en fait. Et ça, c'est ce que ça demande. Ce que l'injustice demande, c'est ça. Ce que sa colère demande, c'est l'amour. Super sérieux, hein ? C'est super sérieux. Dans Exode 36, il dit, ça fait partie de son nom, quand il donne son nom à Moïse, « Je suis l'Éternel, l'Éternel, compatissant, bienveillant, tout ça. » Et puis il dit, « Je ne vais pas laisser le coupable impuni. » Waouh ! Puis on se dit, quand c'est l'autre qui nous a blessés, on se dit, « Ah, super !» Puis tout d'un coup, on est dans le miroir, puis on se regarde dans le miroir. Puis on se dit, « Oh purée, je fais quoi avec ça ?» Pour dire que c'est sérieux, le pardon. Et ça va dans les deux sens. Et puis, là-dedans, en fait, ce que Dieu... Ça m'a amené à me poser la question, en fait, Dieu, il a fait quoi ? Avec sa colère et avec sa souffrance. Petite idée ? On a chanté la croix. Et le dernier chant, l'avant-dernier chant, c'était juste ça, quoi. C'était juste incroyable. Juste incroyable. Ça, c'est une proclamation de ce que Jésus a fait à la croix, de ce que Dieu a fait à la croix. C'est là que Dieu va déverser, en fait, toute sa colère sur Christ. Ce n'était pas une colère contre Christ, c'était une colère contre l'injustice qui appelle à l'amour. Et quand Jésus il pose la question dans le jardin de Gethsémané, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin ? Il est très, très conscient de ça. Parce qu'il va boire, en fait, toute cette coupe qu'on va boire de la colère de Dieu. Et nous, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la foi, on ne boit plus la coupe de la colère de Dieu, on boit la coupe de la compassion et de la miséricorde de Christ. Et c'est une toute autre coupe. Moi, je vous dis, j'aimerais plus boire de l'autre. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, cette petite phrase. Et puis, ah mince, Quelqu'un a une pièce de 2 francs là, ou 5 francs ou quelque chose? Non, ben, vous imaginez une pièce là, d'accord? On ne va pas perdre du temps avec ça. Le pardon, en fait, est comme une pièce de monnaie. Il y a 2 faces au pardon. J'aimerais vous parler de ces 2 faces du pardon. Le premier, c'est ces 2 faces, en fait, ces 2 invitations. On reprend ces 2 facettes ou faces du pardon. On reprend ce petit dessin. Et puis, on va y ajouter ce qu'on fait normalement quand on pardonne. Alors là, j'aimerais passer du temps avec chacun de vous puis dire, quand tu dis « je te pardonne », et puis juste vous écouter pour vous demander « tu fais quoi quand tu dis ces paroles ?» La plupart du temps, on fait ça. On prend l'injustice qui a été faite contre nous, on la pose à la croix. D'accord ? Donc là, vous avez vu la flèche qui amène à la croix à l'injustice. Vous ne me regardez plus, vous regardez là-bas maintenant, d'accord ? Où il y a marqué injustice là. D'accord ? Et puis, on dit cela. « Je te pardonne. » Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ou bien il faut refaire. Hop, il faut que je fasse dans le bon sens. On dit « Je te pardonne. » Et puis, on a pardonné. En pardonnant, la première facette de cette pièce de monnaie, en fait, c'est de libérer la personne, de lui dire « je te pardonne, je te libère, je compte plus contre toi ce que tu as fait ». Ça vous va ? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Un grand vide. Un grand vide qui est ? L'absence d'injustice. Qu'est-ce que vous voyez encore sur l'écran ? Ah, merci. Ben, en fait, tout ce truc-là, c'est encore tout là. Hein. Mais j'ai pardonné. Et à la croix, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ça, je dirais, c'est le pardon qui est bon marché. C'est juste une parole qui dit « je te libère ». Mais en fait, on a toujours ce cri de justice qui est là, on a toujours nos besoins qui sont là, on a toujours notre crainte, on doit toujours se protéger, on a tout ça en fait en nous. Et quand on est appelé à pardonner comme Dieu nous a pardonné, Dieu il a fait plus que simplement nous donner une parole et nous dire « oh je te pardonne ». Il a fait plus que ça. Il a envoyé son Fils. Ce Fils qui a été d'accord, en accord avec le Père, d'aller jusqu'à la croix pour mourir. Et ça, c'est le coup du pardon. C'est pas « ah ben c'était rien du tout en fait ce que tu m'as fait. Je te pardonne quoi. » Non, 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 non. C'est vachement plus sérieux que ça. Et puis l'autre facette en fait, ça fait partie du pardon. D'accord ? Il y a un moment où on va prendre une décision, faire un choix de libérer la personne, de dire « je compte plus ce que tu as fait contre moi, c'est bon, tu es libre ». Mais ça libère l'autre personne, moi en fait, il n'y a rien qui me libère là-dedans. Et l'autre facette, c'est une invitation de Christ à venir vers lui avec notre cri de justice, en nommant les accusations, en nommant nos revendications, en disant ben voilà tout ce que cette personne elle m'a fait. Et puis j'étais encore récemment avec une personne qui a vécu aussi un truc assez rude avec le leader de son organisation. Et puis ça fait une année à peu près, et il me partageait un petit peu de son vécu. Et dans tout ce qu'il partageait, il y avait une colère, il y avait dans le ton de la voix, dans son regard, il y avait une haine qui était là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore. Et puis ça a permis de donner 2-3 pistes aussi par rapport à ça. Mais là, c'est en fait de venir et d'avoir, on a besoin pour cette étape d'une révélation de Dieu qui est le juste juge. Si on n'a pas cette révélation, ce pas-là, il est quasi impossible à faire. Parce que ça veut dire que je suis invité à lui faire confiance avec mon cri de justice. Qu'à toutes ces revendications, qu'à toute cette colère, qu'à toutes ces accusations, et puis de poser ça à la croix. Et puis voilà ce qui se passe. Vous avez vu cette chaîne aussi, hein ? Quand on lui fait confiance avec ces choses, il ne dit pas « Oh, ce que tu as vécu, c'était rien du tout ». Il dit « C'était tellement que je suis mort pour ça. Et je suis le juste juge, je ne vais pas laisser le coupable impuni. » Puis là, de nouveau, on go « Ah, ouais, super Seigneur, vas-y, allez, ouais, ouais, ouais !» Mais en fait, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est notre cri de justice toujours. Le cœur de Dieu, c'est de sauver ces gens. C'est que ces gens comprennent son amour incroyable qu'il a avec Jésus qui est mort à la croix pour eux. Ça, c'est son cœur. Et puis tu vas, puis tu te dis « Non, mais Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait, quoi !» Ouais. Et en fait, quand on arrive à ça, et ce n'est pas quelque chose qui se fait juste comme ça, c'est un processus, d'accord ? Mais c'est aussi quelque chose qui va nous libérer, nous. Vous avez vu que la chaîne, elle est partie. Et c'est là, pour moi, ces deux pièces, c'est de libérer la personne, mais c'est aussi que Dieu nous libère, nous, de notre cri de justice, de notre prison, pour qu'on puisse vivre de nouveau dans la joie et vivre dans la liberté. Deux, trois choses sur ce que le... J'en suis où ? Voilà, ça c'est la totalité du pardon. Ah oui, je veux rajouter ce petit truc-là. En fait, pour l'offenseur, quand vous libérez quelqu'un dans les mains de Dieu. Dieu veut son salut. Parce qu'il est mort pour tous les gens. Je vous donnerai juste une petite histoire par rapport à ça. Mais en fait, cette personne-là, quoi qu'elle vous ait fait, si elle vient vers Christ, qu'elle confesse, qu'elle se repent, elle va recevoir la grâce. Et là, il y a tout qui se réveille en toi, puis qui dit « C'est pas possible, regarde ce qu'elle m'a fait !» Puis Dieu, il dit la même chose pour toi. On en a besoin, on est tous pécheurs. Quand vous êtes regardé dans le miroir, on est autant imparfait que celui d'à côté, celui qui nous blesse. Et quand on est là, bien, l'offenseur est pardonné. Waouh! Alors, quand c'est nous qu'on est pardonné pour nos offenses, ça nous fait plaisir. Quand c'est quelqu'un qui nous a fait mal, qui est pardonné pour ses offenses, c'est un peu plus compliqué. Je peux vous donner juste un petit exemple par rapport à ça. Peut-être que je l'ai déjà donné, je ne sais plus. J'ai déjà donné beaucoup de fois. L'exemple d'une femme, son mari avait le cancer. Vous la connaissez déjà, celle-là, ou bien ? Non ? Son mari avait le cancer, il est à l'hôpital, dernière phase de vie. Et puis, un jour, elle allait tous les jours le matin le voir. Elle arrive, son mari rayonnait de joie, c'était la grande lumière. Il lui dit « J'ai une vision cette nuit de Jésus, il y avait sa lumière, c'était le ciel, il y avait sa présence, il a les bras grands ouverts, et puis il me dit « Bienvenue, mon fils bien-aimé ». Puis elle se réjouit avec lui, génial, et tout ça. 3 jours après, ou 4 jours après, je ne me rappelle plus tous les détails, mais elle arrive. Il avait un visage beaucoup plus fermé, beaucoup plus sérieux, puis il lui dit « Écoute, je dois te confesser quelque chose. » Vous voyez la confession, hein ? « Pendant toute notre vie de mariage, j'ai couché avec, puis il avait une liste de femmes avec lesquelles il avait fait de l'adultère. » Et il lui a dit « Ça se passait aussi chez nous, etc. etc. » Et elle est partie dans une colère. Moi, je l'ai rencontrée à peu près une année après. Elle était toujours dans ce cri de justice, cette accusation envers Dieu aussi, alors envers son mari, mais envers Dieu. « Pourquoi tu as donné cette vision que tu l'accueilles comme s'il n'avait rien fait ? Et puis regarde ce qu'il m'a fait !» Et puis, voyez un petit peu, ça va profond, hein ? Ça va très très profond. Et il a fallu pas mal de temps pour arriver à cette étape, en fait, de faire confiance à Dieu. Puis d'y dire « Écoute, je ne comprends pas, mais je te donne toute cette accusation que j'ai contre toi, voilà ce qu'elle est, voilà les accusations que j'ai envers mon mari, voilà je te donne. » Et puis, tu as pris soin de lui, en fait. Puis je veux me réjouir qu'il fait que tu l'as accueilli chez toi, puis qu'il est pardonné. Mais ça a duré presque 2 ans hein, pour arriver à ça. D'accord. Donc, 2-3 choses maintenant sur ce que le pardon n'est pas et ce qu'il est. Le pardon, ce n'est pas de forcer quelqu'un à nous pardonner. Chacun va passer au pardon en son propre temps. Le pardon, c'est un processus dans lequel on est, c'est aussi un choix, non seulement envers les personnes à qui on pardonne, mais aussi en tant qu'exemple dans un monde alimenté par la vengeance et la haine. Le pardon montre qu'il existe une meilleure façon de faire. Le but du pardon, ce n'est pas d'amener une autre personne à changer, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler ici et maintenant. Le pardon, c'est un acte de foi en faisant confiance à Dieu pour gérer ce qui échappe à notre contrôle. Parfois, le pardon peut conduire à la réconciliation, mais ce n'est pas toujours le cas. Pardonne quand même. Et puis, sur ce petit slide que j'ai trouvé d'un monsieur Igor Thirier, il met simplement 2-3 choses que ce n'est pas, je ne vais pas m'arrêter beaucoup là-dessus, mais plutôt sur le centre, en fait. C'est d'arriver à cet endroit où j'ai pu faire confiance à Dieu avec ce cri de justice, pas juste oh, ben, prends mon cri de justice, parce que c'est quoi que tu donnes, en fait hein, c'est vraiment de nommer les choses, mais c'est de ne plus éprouver de rancœur, hein, c'est de ne plus agir selon la rancœur ou réagir selon la rancœur, mais c'est d'agir ou de réagir avec bienveillance, avec des personnes qui ne le méritent pourtant pas. Et ça, c'est l'amour de Dieu. On ne le mérite pas plus que ceux qui nous ont blessés. Et c'est d'arriver à ça dans nos vies. Voilà. Alors, je vais passer très vite, parce que j'aimerais arriver juste à la Sainte-Seine. Simplement pour dire que l'invitation, c'est plus que le pardon. Et puis, cette libération que Dieu nous donne à nous, il veut aussi nous pardonner nos fautes, parce qu'il est venu pour ça. Il veut, dans les besoins qu'on a, venir nous satisfaire, mais d'une manière qui lui plaît, qui nous honore et qui honore les autres. Il aimerait venir là où ça fait mal dans nos vies, mais ça veut dire qu'on doit être honnête, authentique, et dire à Dieu et à nous-mêmes, ça fait mal. Voilà où ça fait mal. Et il y a ce guérison, c'était le dernier chant qu'on a chanté aussi. Et puis, dans les croyances, il veut venir amener sa vérité. Si tu penses que tu es nul, que tu arriveras jamais à rien faire de bien, que tu es ci, que tu es ça, demande à Dieu si c'est ce qu'il pense sur toi. Et si tu as l'impression qu'il te dit non, ce n'est pas ce que je pense, eh bien, tu lui dis, tu penses quoi? Et tu attends jusqu'à quand que tu entendes sa petite voix qui te dise. Et puis, ce n'est pas toujours un verset biblique. Or, zut alors. Hein, bon, la petite phrase qu'il m'a donnée dans ma vie, c'était une phrase qui m'a complètement bouleversé et changé. C'était, je crois en toi. Ah, purée, j'ai mis du temps pour l'accepter, celle-là. Même que je savais que ça faisait du bien, au début, je me suis foutu de la gueule de Dieu. Et j'ai rigolé. J'ai dit, pourquoi tu veux croire en moi? Hé, regarde ma vie. Et j'ai commencé de raconter de nouveau toute ma vie. Et puis, il a continué de dire, non, mais je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qu'il veut me donner, en fait. Puis maintenant, je suis toujours, après bien des années, toujours en train d'apprendre. Alors, j'ai déjà fait un bout de chemin, mais je suis toujours en train d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec ce regard de Dieu qui me dit, je crois en toi. Tu fais des erreurs, c'est OK, je crois en toi. Tu fais des âneries, c'est OK, je crois en toi. C'est pas très bien ce que tu as fait, c'est OK, je crois en toi. Waouh, change la vie. Voilà. Et puis, dans tout ce processus, on va remarquer qu'on y arrive, on y arrive. Tu arrives à revenir en arrière, ou même pas, je ne pense pas que je vais le relancer. On va arriver, en fait, à cet endroit où notre peur va se transformer petit à petit en confiance, parce qu'on va rencontrer Dieu dans tous ces endroits de nos vies. Et puis il nous appelle, si tu peux remettre juste le dernier slide. Il nous appelle et nous invite et nous dit sur nos vies cette parole. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Vous êtes avec moi ? Toutes nos détresses. Afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, quelle qu'elle soit. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes. Waouh ! Et c'est en fait pas du se concentrer sur soi-même, centrer sur soi, orgueilleux, tout ça, c'est pour moi, on court après la guérison pour moi. Non, c'est oui, je vais bénéficier de ça, mais il y a cet appel d'aller et de pardonner, de vivre comme il nous le dit et comme lui, il nous a pardonné. Et c'est là un petit peu l'invitation de venir prendre cette Sainte Cène. On va la prendre un petit peu différemment ce soir, parce que le pardon, c'est une histoire de choix. Et la Sainte Cène, c'est en fait où on se met en accord avec Dieu de marcher selon sa parole, de recevoir ce qu'il a fait pour nous, de recevoir ce don incroyable de grâce, de compassion, d'amour, malgré qu'on n'y a pas droit quelque part. D'accord ? Parce qu'on est tous pécheurs. Malgré que ceux qui nous ont blessés n'y ont pas droit. Et pourtant, Dieu l'a fait. Et il nous appelle à marcher après lui. Et ça inclut nos paroles, nos actes, nos pensées, même à aller jusqu'à bénir nos ennemis. Waouh ! Et si possible, d'être réconcilié avec eux. Mais pour ça, il faut deux personnes qui font ce chemin. Et j'aimerais vous inviter, en fait, à simplement venir à la table, quand vous êtes prêts, à prendre sur la table, on vous le donnera, mais à simplement venir recevoir, prendre, faire le choix de venir manger de ce pain qui nous rappelle la mort de Christ. Qu'il a été brisé pour nos péchés. Et puis ensuite de prendre la coupe simplement dans le but de mettre un sceau sur cette nouvelle alliance qui nous dit « voilà qui je suis ». Et on a chanté ce chant « voilà qui je suis, je sais qui je suis ». Waouh ! Donc voilà. Et puis on va terminer tous ensemble après avec le Notre Père.